Amnesty ouais. International, tous les premiers lundis.
Tous les premiers lundis de chaque mois, de 9h à 10h, sur Fréquence Mistral 99.3, je vous propose une émission qui s'appelle Pour la dignité et qui est consacrée aux droits humains et aux actions, aux enquêtes, aux recherches d'Amnesty International en France et par le monde.
Et pour la dignité, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette émission sur les droits humains avec Régis Coulange d'Amnesty International et Charlotte. Bonjour.
Bonjour. Voilà, alors aujourd'hui, on fait l'émission, non pas le premier lundi, mais le deuxième lundi de ce mois, parce qu'on accueille Charlotte Boiteau, qui fait partie du groupe d'Amnesty de Digne et qui est aussi le relais femmes pour le groupe de Digne et pour notre région. Voilà, donc on va parler aujourd'hui, bien sûr, on va commencer avec Charlotte, puisque le 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes. Ensuite, on parlera de notre festival au cinéma pour les droits humains. Et on terminera par l'interview de la présidente d'Amnesty France sur la situation en Cisjordanie occupée. Et puis un article sur Gaza, où la dignité des otages défunts n'a pas été respectée. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc je laisse la parole à Charlotte.
Bonjour à tous. Alors du coup, comme l'a dit Régis, le 8 mars était la journée internationale des droits des femmes. Donc je vais vous parler un peu en France avec des chiffres clés. Donc il y a 94 000 personnes qui sont victimes de viol ou de tentatives de viol chaque année. 213 000 femmes sont victimes de violences conjugales, physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint chaque année. Moins de 1% des plaintes pour violences sexistes ou sexuelles aboutissent à une condamnation. Seulement 6% des victimes de viol, tentatives de viol et ou agressions sexuelles ont porté plainte en 2021. En 2022, tous les 3 jours, une femme a été victime de féminicide par son ex-conjoint. 81% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. 84% des victimes de cyberviolence sont des femmes. Et face à toutes ces injustices, il y a en plus 37% des hommes qui considèrent que le féminisme menace leur place dans la société. Et un quart des hommes de 25 à 34 ans estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. À quand l'égalité homme-femme ? Même si en France comme ailleurs, la parole des victimes s'est récemment libérée, elle n'est hélas toujours pas entendue et les chiffres sont là pour le prouver. Les violences sexistes et sexuelles ne reculent pas. L'impunité règne et les réponses, qu'elles soient juridiques ou politiques, restent encore largement insuffisantes. Dans les rues, les transports, au travail, à l'école, à la maison, à la télévision, sur les réseaux sociaux, le sexisme et les violences qui en découlent se manifestent tous les jours et partout. Pour les victimes, accéder à la justice reste un véritable parcours de combattante, encore plus pour celles qui sont déjà discriminées, marginalisées ou vulnérables. Amnesty International France demande l'accès à la justice pour toutes ces femmes. Fini les « vous n'avez pas le droit de porter plainte parce que vous êtes en situation irrégulière » ou les « non madame, vous ne vous êtes pas fait violer, c'est un client » qu'on peut entendre lors d'un dépôt de plainte. Les stéréotypes et les préjugés des forces de l'ordre les concernant sont malheureusement répandus et le faible nombre d'heures de formation dispensées ne permet pas toujours la déconstruction de ces comportements illégaux. Amnesty International se bat pour une culture de consentement. En droit français, le viol n'est toujours pas caractérisé par le consentement. Une meilleure prise en charge des plaintes. Lors du dépôt de plainte, les femmes sont trop souvent face à des questions culpabilisantes. Exemple, vous étiez habillée comment ? Améliorer l'accès à la justice des femmes étrangères. Nous demandons que les personnes étrangères portant plainte soient protégées et qu'elles puissent résider légalement en France pendant l'examen de leur dossier sans risquer l'expulsion. Restons positifs avec quelques victoires importantes. En Andorre, la défenseure des droits Vanessa Mendoza Cortés, qui avait dénoncé l'interdiction totale de l'avortement en Andorre, a été acquittée. En France, l'inscription de l'IVG dans la Constitution est une avancée majeure pour les droits des femmes. La France a été le premier pays en 2024 à inscrire explicitement l'IVG dans la Constitution 50 ans après la loi Veil sur la dépénalisation de l'avortement. En Pologne, la définition du viol basée sur le consentement est un pas historique. Et moi, maintenant, je rêve du jour où il n'y aura plus besoin de faire du 8 mars la journée internationale des droits des femmes, car ce jour-là, alors, on pourra peut-être croire en une égalité homme-femme qui n'est pour l'instant qu'illusoire. Et ce n'est pas uniquement en France, mais partout dans le monde.
Voilà, donc il y a encore beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à l'égalité. On va maintenant écouter Anne Sylvestre, qui était une féministe bien ancrée. et qui nous chante cette qui a écrit cette merveilleuse chanson, Une sorcière comme les autres.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot. Vague ou de ruisseau, et c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard, et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang, qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suivrai, je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez. Faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses. La mer à son tour divague, de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et si l'ancêtre ou bien l'enfant, celle qui sait d'où se défend, c'est Gabriel ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. C'est mon cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne si la moche ou bien la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.
Voilà, extraordinaire chanson que j'aime bien passer régulièrement sur cette antenne. Voilà, nous allons donc parler du Festival des droits humains d'Amnesty International, qui a lieu du 1er au 31 mars 2025. Il s'appelle Au cinéma pour les droits humains. Il est organisé par Amnesty International France dans les régions du sud méditerranéen et il célèbre sa 12e édition. Il y a des documentaires émouvants, des courts-métrages inspirants et des longs-métrages engagés composent une sélection qui met en lumière les grands défis liés aux droits humains, offrant une tribune aux voix de celles et ceux qui œuvrent pour un monde plus juste. Cette année, le festival met en lumière 40 films engagés qui abordent des thématiques essentielles, liberté d'expression et lutte contre la censure, des combats phares d'Amnesty International pour protéger les voix dissidentes, crise climatique, humanitaire, conflits, essor des populations les plus vulnérables face à ces défis mondiaux, combat féministe et droit des LGBT face aux régressions législatives et sociales menaçant des acquis fondamentaux, résistance citoyenne face à l'oppression à travers des récits de lutte populaire pour défendre les libertés, un thème central des campagnes globales d'Amnesty International. Le groupe de Digne participe à ce festival en proposant 3 séances, jeudi 13 mars, jeudi 20 mars, jeudi 27 mars, ainsi qu'une intervention au lycée Alexandre Davinel le mercredi 26 mars dans une classe de terminale en présentant un court-métrage sur justement une femme iranienne qui retourne dans sa famille pour l'aider à déménager et qui, à la suite du mouvement Femmes, Vie, Liberté, décide de ne plus porter le voile. Et donc, c'est toute la discussion dans la famille, savoir si elle va être acceptée ou pas d'être ainsi. Voilà, alors, on commence jeudi 13 mars à 18h au Ciné-Étoile par le film Berlin, été 42. C'est un film allemand d'Andreas Dresen qui sort actuellement. Le thème, c'est actes de résistance, torture et peine de mort. Berlin en 1942, c'est le plus bel été pour Hilde, follement amoureuse de Hans et joyeusement enceinte, mais la passion s'accompagne d'un grave danger. Hans s'engage dans la résistance anti-nazie avec un groupe de jeunes gens que l'on appellera plus tard l'Orchestre Rouge. Malgré les risques énormes, Hilde décide de s'engager elle-même, mais elle est arrêtée par la Gestapo et donne naissance à son fils en prison. Alors, Philippe Buller, qui est un critique de cinéma, nous parle de ce film. Berlin, été 42, met en opposition les terribles expériences vécues par la protagoniste en détention et des souvenirs de sa vie passée. Les sorties à la mer du groupe polyamoureux de Berlin lors des chaudes journées d'été, la première rencontre avec Hans Coppi, qu'elle épousera plus tard. L'ordre de ces flashbacks suit une sorte de logique onirique. Il semble parfois fonctionner à l'envers. Même la résistance proprement dite, Hyde écoute Radio Moscou et transmet des signes de vie de prisonniers de guerre allemands à leurs proches, s'inscrit dans cette célébration de la vie libre, confuse et désarticulée. Les deux amoureux et les autres n'avaient pas de plan comme les futurs auteurs de l'attentat du 20 juillet contre Hitler. Dans ce film de Dresden, nous apprenons peu de choses sur leur motivation. Étaient-ils conscients du danger qu'ils encouraient? Leur résistance avait-elle un sens? Valait-elle ce terrible sacrifice? En ces temps de « plus jamais », Dresden et sa scénariste de longue date, Leila Stieler, nous laissent le soin de juger. C'est la force de ce film. Il ne se contente pas d'exhorter au souvenir, mais fait du souvenir lui-même un sujet. L'amour d'Al Kopi pour la vie, pour son mari, pour son enfant, une humanité qui ne se remet pas en question, lui donne la force de résister. Ce message est politique et plus important que jamais à l'heure des montées des nationalismes un petit peu partout. Voilà, donc nous passerons ce film. Et nous avons la chance d'accueillir un historien, Andrew Knapp, qui est professeur émérite de l'université de Reading, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, et qui viendra nous présenter le contexte du film et animer le débat sur la résistance de ces jeunes Allemands au nazisme à l'intérieur de leur propre pays. Voilà. À la suite du débat, on offrira un verre de l'amitié aux spectateurs au stand d'Amnesty qui sera installé dans le hall. On va maintenant écouter justement une chanson de Résistant de Leonard Cohen, The Partisan.
J'ai changé 100 fois du nom, j'ai perdu femmes et enfants, les gitans d'Arrée. C'est la France entière. Un vieil homme dans un grenier, où la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
Voilà, alors notre deuxième séance aura lieu une semaine après, le jeudi 20 mars, toujours à 18h et toujours au Ciné-Étoile, pour une soirée de courts-métrages. On va vous présenter les sept courts-métrages qui seront à l'affiche. Charlotte ?
En premier, il y aura There is No Friend's House de Abba Tahiri, iranien, qui date de 2023 et qui dure 19 minutes 07. Le thème, c'est le droit des femmes et des jeunes femmes en Iran. Sarah et Mary, deux amies, se lancent un défi très périlleux au lycée. Or, elles sont non seulement de très jeunes femmes, mais sont surtout iraniennes avec des familles totalement opposées. Donc ça, ce sera le premier.
Le deuxième court-métrage qu'on vous propose s'appelle « Les Inconsolables » de Hugo Roblin. C'est un court-métrage français de 4 minutes 30 qui aborde le thème du droit au logement, le problème des sans-domicile fixe et les enfants qui dorment dans la rue, puisque l'UNICEF estime à 3000 enfants dormant dans la rue en France. Au cours d'une conversation, une mère et sa fille voient la vérité de leur situation pour se protéger l'une et l'autre.
Ensuite, il y aura Les Cornes Blanches de Denis Lakioff en russe, qui dure 15 minutes et qui date de 2022. Les thèmes abordés, c'est l'homophobie institutionnalisée en Russie et les comportements masculinistes. Vlad, un jeune homosexuel russe dans le placard, revient de Moscou dans sa petite ville natale. Son père Lyoka, lui, a organisé une surprise, une soirée au sauna en compagnie d'une prostituée.
Le quatrième court-métrage est un court-métrage indien qui s'appelle Cat and I de Arjia Kamal Roy qui dure 6 minutes. Il parle de la situation de précarité des enfants pauvres et le travail des enfants, le droit à l'éducation. L'histoire tourne autour d'un garçon sans-abri âgé de 9 à 11 ans qui passe son enfance dans les limites d'une échoppe de thé au bord de l'autoroute. Cet enfant assume habilement divers rôles au sein du salon de thé, ce qui serait inconcevable dans une société juste et équitable. Dans son monde limité, il se lie d'amitié avec un chien, tous deux dépourvus d'un endroit stable où se sentir chez eux. Bien qu'il n'ait pas de logement physique, le vaste ciel devient leur refuge. Dans les moments de désillusion, le garçon contemple la vaste étendue, aspirant à s'élever et à jouer parmi les nuages. Un semblant de liberté pour ses enfants dans leurs années de formation.
Ensuite, il y aura Father's Letters de Alexei Extignev. Désolé, hein, je ne sais pas trop comment on dit. C'est un film d'animation qui dure 12 minutes et qui date de 2023. Les thèmes abordés sont l'emprisonnement abusif, en référence à la Grande Purge de 1934 en Russie. En 1934, le professeur Wangengeim est arrêté pour sabotage et envoyé au goulag sur les îles Solovski. Mais dans les lettres qu'il adresse à sa fille, il continue de se faire passer pour un explorateur en voyage.
Le court-métrage suivant s'appelle 3018 de Manon Caverne, Louise Levasseur et Maud Roger. C'est un court-métrage français et 3018, c'est le numéro de téléphone pour notamment des enfants qui sont harcelés. Donc le thème, c'est le harcèlement scolaire. Et donc ce numéro d'appel, 3018, est le titre aussi de ce court-métrage. Une adolescente, témoin d'une scène de harcèlement, se retrouve plongée dans ses pensées et ses angoisses.
Et pour finir, on diffusera Vers un monde meilleur, avec 415 jeunes de 4 à 16 ans sous la direction de Nadège Eriger, en Belgique. Il dure 10 minutes et les thèmes sont les dessins d'animation, le devoir de mémoire primaire à partir de CE1. Ma mère m'a donné la vie 2 fois. À ma naissance et le jour de mon évasion, le 19 avril 1943. Les ballottés, un groupe d'enfants et d'adolescents en difficulté scolaire pour diverses raisons, ont recueilli le témoignage de Simon Gronowski, l'un des derniers survivants de la Seconde Guerre mondiale. Ils transmettent à leur tour cette histoire et leur réflexion à travers ce documentaire animé qu'ils ont réalisé avec passion.
Voilà, donc cette séance de 7 courts-métrages avec des thèmes très variés, mais bien sûr toujours en rapport avec les droits humains, sera offerte gratuitement parce que nous obtenons les courts-métrages gratuitement et le Cinétoile accepte aussi de faire l'entrée gratuite pour cette séance de 7 courts-métrages. Donc, venez nombreux pour discuter. Je vous rappelle que pour chaque film, il y a une note que les spectateurs vont attribuer de 0 à 5 parce que le festival donne lieu à des prix. Nous remettons des prix, prix du meilleur court-métrage de fiction, prix du meilleur court-métrage documentaire, prix du meilleur long-métrage de fiction et prix du meilleur long-métrage documentaire. Et bien sûr, c'est toujours le prix du public, parce que c'est que le public qui vote. On va maintenant écouter une chanson justement sur le harcèlement de Maël. Ça s'appelle « Effet de masse ».
Dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui, tu l'as déjà vu. Il partageait ton cœur dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui qui nous casse et nous isole. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais son nom je sais plus. Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on est plus nombreux? Je l'avoue, le cœur gros, oui, j'ai ri avec eux. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux de masse qui nous classe et qui nous cogne sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent. C'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Et on était plusieurs. Il faut en faire valoir pour se sentir meilleur. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, on ne l'a plus jamais vu.
Voilà, et donc ensuite, ce sera la troisième séance, le jeudi 27 mars, toujours à 18h, et toujours au Ciné-Étoile. C'est une séance consacrée aux migrants, en partenariat avec RESF, Réseau d'éducation sans frontières, et ASAGI, Association de soutien aux jeunes isolés étrangers. Voilà, nous allons passer à un long-métrage documentaire, suivi d'un court-métrage documentaire aussi sur le même thème. Alors le premier long-métrage documentaire, Save Our Souls, voilà, parle du sauvetage en mer Méditerranée par SOS, l'ONG SOS Méditerranée. La Méditerranée est un désert mortel pour celles et ceux qui veulent atteindre les côtes européennes. Au large des côtes libyennes, l'équipage de l'Ocean Viking veille à la recherche d'embarcations en détresse. Après un sauvetage à haut risque au large de la Libye, naufragés et sauveteurs vivent ensemble sur le bateau de l'ONG SOS Méditerranée dans l'attente d'un port d'accueil. Ce temps à bord est le premier refuge des rescapés. Avec les sauveteurs se tisse une relation faite d'écoute, de soins et de présence. Une relation comme un gilet de sauvetage. On estime à 28 505 femmes, hommes et enfants le nombre de disparus en mer Méditerranée entre 2014 et 2023. C'est la route migratoire la plus meurtrière du monde, juste aux portes de l'Europe. SOS Méditerranée est une ONG européenne humanitaire indépendante présente en mer depuis 2016. Après avoir travaillé sur l'Aquarius, l'ONG opère sur l'Ocean Viking en partenariat avec l'International Federation of Red Cross and Red Crescent depuis août 2021. En portant secours à celles et ceux qui sont perdus en mer, SOS Méditerranée applique strictement le droit maritime international et son obligation de porter assistance à toute embarcation en détresse. Depuis 2016, l'ONG a secouru 40 128 personnes, dont 9 805 mineurs, au cours de 408 opérations de sauvetage. Le film a été tourné à bord de l'Ocean Viking lors de la 26e mission de SOS Méditerranée entre le 26 février et le 4 avril 2023. Depuis 2016, l'ONG est présente en mer pour porter secours aux embarcations en détresse. Son équipage travaille à bord de l'Ocean Viking. Le réalisateur a passé des semaines sur le bateau. Le huis clos a cette force centrifuge. Il permet de concentrer les questions à la fois humaines et politiques. Le microcosme de l'Ocean Viking est un espace paradoxalement utopique, un refuge pour notre humanité. Un lieu où, au cœur de la violence de leur voyage, les rescapés peuvent commencer à raconter. Un espace où il nous faut trouver un langage commun pour nous comprendre. Toute histoire de migration est peut-être une histoire de relation. Relation à l'autre, au pays d'où l'on vient, au pays où l'on va, relation à soi, à l'autre en soi. C'est précisément là qu'est le cœur de ce film. Je pose ma caméra entre les secouristes et les rescapés. Par relation, je veux dire le lien humain, le fil invisible. Ce que chacun apporte à l'autre, même si cet échange est à l'origine asymétrique, puisque les uns ont sauvé la vie des autres. Une relation forcément particulière, unique dans son intensité, limitée dans le temps et l'espace, elle se déploie dans la période qui sépare le sauvetage et l'accueil des réfugiés dans un port qui sera pour eux la porte de l'Europe. C'est dans cette suspension entre le sauvetage et le débarquement que se joue le film. À la suite de ce long métrage, on a pensé mettre un court métrage qui permet de voir le après, une fois débarqué, et notamment que deviennent ces jeunes, avec un exemple que va vous raconter Charlotte avec le film Emilia.
Alors, c'est un court-métrage documentaire qui dure 20 minutes, qui a été fait en Belgique par Rafa Arroyo. Les failles du système d'accueil de l'État espagnol laissent chaque année des milliers d'immigrés sans papier à la rue, lorsqu'ils atteignent leur majorité. Emilia Lozano, militante infatigable des droits de l'homme et du mouvement féministe, dans sa lutte permanente pour la justice sociale, redéfinit le concept de famille pour nombre d'entre eux par l'amour, l'empathie et la solidarité.
Voilà, donc je vous rappelle nos trois séances. Ça commence ce jeudi 13 mars à 18h au Ciné-Étoile. Entrée 5,50 €. Le film Berlin été 42 avec un intervenant, historien, professeur d'université, Andrew Knapp. Deuxième séance, c'est une séance gratuite de 7 courts-métrages. Le jeudi 20 mars, toujours à 18h au Ciné-Étoile. Et la dernière séance, on vient d'en parler, porte sur les migrants, le sauvetage des migrants en mer et l'accueil des migrants en partenariat avec RESF et ASAGI. Jeudi 27 mars à 18h au Ciné-Étoile, entrée 5,50 €. Voilà, on va écouter HK dans une chanson « J'ai marché jusqu'à vous ».
Les coups de sang, les coups du sort, les coups de poing, les coups encore, j'en ai reçu plus qu'à mon tour, j'en ai reçu jusqu'à ce jour. J'ai quitté mon petit village en portant pour seul bagage des restes de rêves d'enfant, des gentils qui gagnent à la fin. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, mille fois j'ai fait ce rêve, je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, je suis là, voyez-vous. Mille fois j'ai fait le vœu, je vous en fais l'aveu, de me voir un jour dans vos yeux. Les petits chemins retirés, les routes fleuves et les forêts, les vastes plaines et les plateaux, les grandes villes comme en photo. Je marchais tant que j'ai pu, tant de fois je me suis perdu. Les trains, les camions, les bateaux, les coups de blues, les coups de couteau. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, mille fois j'ai fait ce rêve, je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, je suis là, voyez-vous. Mille fois j'ai fait le vœu, je vous en fais l'aveu, de me voir un jour dans vos yeux.
Combien de pays traversés? Combien de frontières dépassées? Et me voilà, m'en voulez-vous? Je n'avais pas pris rendez-vous. De mon histoire, vous savez tout. Arrivé seul et sans le sou, mais surtout arrivé en vie. Comprenez pourquoi je souris. J'ai marché jusqu'à vous. J'y ai cru, je l'avoue. À chaque pause, chaque trait, mille fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. Je suis là, voyez-vous. Mille fois j'ai fait le vœu. Je vous en fais l'aveu de me voir un jour dans vos yeux. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai eu peur, je l'avoue. Mille fois j'ai fait ce rêve. Mille fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai marché jusqu'à vous.
Voilà, alors je vais maintenant vous lire la chronique de Pierre Aski, qui est parue dans le journal La Chronique, le magazine des droits humains d'Amnesty International France, dans ce numéro de mars 2025, journal que vous pouvez retrouver à la médiathèque de Digne, puisque nous avons à abonner la médiathèque. Voilà. Connaissez-vous le point Orwell ? Le nombre de références à George Orwell est tel depuis quelque temps que les réseaux sociaux ont inventé le point Orwell, comme il existe le point Godwin, selon lequel une discussion trop longue finit toujours par évoquer la Seconde Guerre mondiale. Le point Orwell, c'est à peu près pareil. Toute discussion, de nos jours, finit par mentionner la novlangue chère à l'écrivain britannique. L'auteur de 1984 avait en effet créé une novlangue dans laquelle les mots changent de sens. Le ministère de la vérité signifie « propagande ». La double pensée introduit deux points de vue opposés et réduit tout esprit critique. Le mot « liberté » est aboli, empêchant désormais quiconque d'y penser. Je n'ai pu me retenir d'imaginer un point Orwell. Donc, en entendant Mark Zuckerberg, le patron du groupe Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, annoncer dans une courte vidéo qu'il renonçait à des partenariats de fact-checking, c'est-à-dire vérification des informations, au nom de la liberté d'expression. En ne vérifiant plus les informations, l'ex-patron cool de start-up, devenu le mania milliardaire aux 2 milliards d'utilisateurs, prend le risque de laisser passer des contre-vérités, des manipulations, aux conséquences potentiellement dangereuses, toujours au nom de la liberté d'expression. Il ne faisait en la matière que s'aligner sur Elon Musk, dont la première mesure, en prenant le contrôle de Twitter devenu X, fut de supprimer les postes de modérateurs. Cette régression va de pair avec la délégitimation des médias dits « mainstream » qui, avec leurs qualités, leurs défauts, s'astreignent à vérifier leurs informations, à enquêter, à contextualiser, à hiérarchiser. Mais ces pratiques professionnelles sont considérées comme désuètes et obsolètes par les patrons de ces géants de la technologie. Ils brandissent la liberté d'expression comme étendard de leur machine infernale qui produisent parfois le meilleur, mais souvent le pire. À côté du point Orwell, on devrait inventer un point Hannah Arendt. Je garde précieusement dans mon téléphone une citation de la philosophe, contemporaine d'Orwell, bien antérieure à Internet. Voici ce qu'elle dit. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que personne ne croit plus en rien. Un peuple qui ne croit plus en rien ne peut plus se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce qu'il vous plaît. Ces derniers temps, j'ai l'impression d'avoir Orwell et Arendt dans la tête tous les jours. On va maintenant écouter Julos Bocarn dans sa chanson « Les loups ont des têtes de moulon ». de Mouton. Et puis on écoutera l'interview de notre présidente d'Amnesty France, Anne Savinel Barras, qui évoque les déplacements forcés en Cisjordanie occupée qui se déroulent en ce moment.
Depuis que Lumumba fut tué pour avoir dit sa vérité, depuis que là-haut et là-haut, parce qu'il avait parlé tout haut, depuis qu'on étouffa une fille dans un avion pour pas qu'elle crie, les loups ont des têtes de mouton, derrière les roses il y a des chardons. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la faux. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot de trop, on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands, ça c'est bien pire. Celui qui se tient au perché, il a le droit de vous supprimer. De beaux enfants sautent sur des mines, mais on n'arrête pas la machine. D'autres sont drogués pour tuer, et la cocaïne les défait. Nous vivons en pleine barbarie, les soldats violent toujours les filles. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la faux. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot de trop, on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands, ça c'est bien pire. Chez nous, un jeune homme fut visé, tiré comme un lièvre en un pré pour le diamant qui s'est gagné, a été totalement détruit. Il y a des fabriques et des boutiques de fusillade pas d'ici. La mort fait vivre nos ouvriers, l'emploi est sauf, on laisse couler. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la faux. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot de trop, on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands, ça c'est bien pire. Des femmes sont tuées à chaque jour, par jalousie, par leurs amours. Il y a des petites filles qui sont forcées, et toute leur vie en est gâchée. Il y en a d'autres à qui on enlève le clitoris, leur vie s'achève. À 3 ans on tourne la page, leur vivant c'est déjà veuvage. Tout le monde veut être tout en haut pour tenir le manche de la faux. Une fois qu'il tient, il veut faucher, et le cauchemar de recommencer. Les petits regardants devenus grands veulent jouer au grand jeu des grands. Il n'y en a pas un qui est épargné, tout le monde veut être le premier. Nous sommes 6 milliards tout en bas, marabouté au nom de quoi? Au nom du pèse, au nom du fisc et du sacro-saint bénéfice. Mineurs et majeurs détournés par des bonimenteurs roués qui veulent que nous marchions au pas et dans les souliers de leur choix. C'est celui qui est tout en bas, qui est bien plus fort qu'il ne croit. Si nous le voulons, toi et moi, le cauchemar s'arrêtera. 6 milliards de petits regardants peuvent devenir acteurs puissants. 6 milliards de gens conscients ensemble changent le cours du temps.
En Cisjordanie occupée où l'armée israélienne mène depuis plus d'un mois une opération qui viserait à éradiquer le terrorisme, les habitants de Mazafer Yatta au sud d'Hébron sont sous la menace imminente d'un transfert forcé selon le dernier rapport d'Amnesty International. On retrouve tout de suite Anne Savinel Barra, présidente d'Amnesty International France. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous venez de publier un nouveau rapport dans lequel vous parlez notamment des habitants de Shibal Boutoum, un village palestinien à Mazafer Yatta situé au sud d'Hébron. Quelle est leur situation ?
Alors, nous évoquons effectivement la situation de cette région, donc située au sud d'Hébron, 12 petits villages, en fait, essentiellement habités par des éleveurs, des bédouins, donc des personnes qui vivent, en fait, de leur culture et de leurs troupeaux. Donc, il se passe, en fait, d'une façon très répétitive, toujours le même scénario, c'est-à-dire que les colons approchent ces villages, commencent par menacer les troupeaux, vont jusqu'à déverser dans les pâturages des eaux usées pour contraindre les éleveurs à retirer leurs bêtes et à en fait, les confiner dans des villages où, bien entendu, très rapidement, ils se retrouvent en incapacité de les nourrir. Nous assistons à côté de ça à des violences vraiment conséquentes qui ont été multipliées par deux depuis l'année 2024, depuis le début de la guerre en fait de Gaza. Les choses se sont considérablement aggravées et donc nous avons des violences sur les personnes et sur les infrastructures. Donc vous voyez ici à l'image des maisons détruites, des écoles détruites, toutes les infrastructures en fait nécessaires au village, eh bien sont démolies les unes après les autres et tout ça dans un climat de peur, de terreur, de pression faite sur ces habitants qui n'arrivent plus à subvenir à leurs moyens, à leurs besoins, vu que leurs troupeaux ne peuvent plus être dans les pâturages. Donc toutes ces conditions en fait amènent la population à s'en aller parce qu'ils sont dans une telle situation de terreur qu'il n'y a plus d'autres solutions pour eux pour mettre en sécurité leurs enfants et ainsi que le reste de leur troupeau et bien que de fuir leur village et donc de les abandonner. Donc nous avons dans ce cadre-là en mars 2024 illustré un village qui s'est complètement déserté, le village de Zanuta qui se trouve tout près du village de Chibalbatoun que nous venons d'illustrer. Et donc il s'agit maintenant en fait d'un village complètement mort, les habitants sont tous partis et donc ils sont partis certes d'eux-mêmes, mais nous appelons ça des transferts forcés, des déplacements forcés, ce qui est bien entendu totalement interdit en matière de droit international.
Selon l'OCHA, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, 2024 a été la pire année en matière de violences commises par des colons en Cisjordanie occupée. Comment expliquer la recrudescence de ces violences et quelles sont les conséquences pour les populations ?
Alors je pense qu'effectivement la situation a profité un peu du fait que les caméras aient été mises sur Gaza où la tragédie qui s'y déroule depuis 2023 a bien entendu occupé l'attention de tout le monde. Pendant ce temps-là, la Cisjordanie a été un peu mise à l'écart, un peu dans l'ombre. Et donc du coup les exactions des colons, que ce soit dans les postes avancés près des villages ou dans les colonies israéliennes bien installées, eh bien les violences se sont accentuées et en toute impunité. Donc l'armée israélienne n'empêche pas ces colons de mener les attaques contre les habitants palestiniens de ces villages. Et donc on est dans une atmosphère d'impunité totale. Je rappelle à l'occasion que on avait tenté de sanctionner les colons qui ont été extrêmement violents, eh bien Donald Trump vient en fait d'annuler ces sanctions. Donc tout se fait dans l'impunité et les habitants palestiniens ont cette sensation en fait que rien ne peut être fait pour les protéger. Et donc ils ont cette sensation, mais malheureusement on voit bien que c'est aussi une réalité puisque rien ne se passe et que les États, en fait, la communauté internationale ne bouge pas.
Berlin ce matin a exhorté Israël à mieux protéger les civils en Cisjordanie. La communauté internationale, vous venez d'en parler, s'en part-elle suffisamment de la situation sur place ?
Alors, on ne parle pas suffisamment de la situation, c'est clair. On ne détaille pas suffisamment quelles sont les conséquences réelles pour ces habitants. Enfin, on les voit là à l'image, qui sont dans des conditions de vie absolument abominables, obligés de tout quitter. Et donc, nous n'insistons pas suffisamment sur la politique qui est menée, en fait, par le gouvernement israélien, qui, avec l'appui qu'il donne aux colons, l'aide même, puisque nous avons pu, dans certains certaines de nos enquêtes effectivement vérifié que l'armée se positionne à côté des colons, assiste aux violences que les colons commettent à l'encontre des habitants, voire même y participe. Et donc on voit bien qu'en fait il s'agit réellement d'une politique de déplacement forcé de toutes les populations palestiniennes pour y installer toujours plus de colonies israéliennes.
Merci Anne-Samine El-Barra pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes la présidente d'Amnesty International France.
Interview sur le site amnesty.fr et vous avez également un communiqué de presse qu'Amnesty a publié suite au jeudi 20 février où le Hamas a remis les dépouilles d'otages israéliens morts à Gaza dans une mise en scène macabre. Parmi eux, des enfants. L'un avait 4 ans, l'autre 9 mois au moment de leur enlèvement. Ces images portent atteinte à la dignité des défunts et de leurs familles. 4 cercueils, portant chacun la photo d'un des otages israéliens, exposés sur une scène publique à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Au-dessus, une grande bâche où le visage de Benjamin Netanyahu apparaît maculé de sang avec des dents de vampire. Voici comment le Hamas a mis en scène la remise des dépouilles, qualifiée par l'ONU d'abjectes. Les cercueils ont été remis au Comité international de la Croix-Rouge, qui les a remis à l'armée israélienne. Le CICR a réagi en rappelant que ces opérations devraient se dérouler en privé, dans le plus grand respect pour le défunt et pour ceux qui portent le deuil. Le droit international interdit les traitements dégradants et cruels des remises de corps et garantit qu'elles soient opérées avec respect de la dignité des défunts et de leurs familles. Toutes les personnes retenues en captivité et détenues doivent être traitées avec humanité et dignité, telles qu'énoncées dans la 3e Convention de Genève. Depuis le début du cessez-le-feu, 19 otages ont été libérés, 70 sont encore retenus à Gaza. Nous le rappelons, la prise d'otages entre dans une qualification juridique bien précise. C'est un crime de guerre qui doit être puni. Nous appelons de nouveau à la libération la plus rapide des otages israéliens encore détenus à Gaza. Voilà, pour terminer cette émission, on va écouter une chanson écrite par Charlotte, notre jeune membre d'Amnesty du groupe de Digne. Chanson-poème sur la liberté, écrite et chantée par Charlotte.
Liberté, un combat maintes et maintes fois mené. Évoluer dans un monde où l'on pourrait s'exprimer. Dire ce que l'on pense sans avoir peur d'être enfermé. Affirmer ses valeurs sans avoir peur d'être jugé. Libre de se battre pour des combats que certains pensent perdus d'avance. Ne jamais cesser de penser, maintenir la cadence. La liberté, c'est aussi une forme de délivrance. C'est vouloir que les choses bougent, que ça change. Libre de se dire que tout n'est pas parfait. Assumer ses actes, ne pas les regretter. Dire tout haut ce qui nous fait vibrer. Porter haut et fort des valeurs parfois oubliées. Libre de le dire quand on n'est pas d'accord. Être prêt à parfois en payer le prix fort. Liberté d'esprit, liberté d'acte, liberté de corps. Même si parfois la liberté nous mène à la mort. C'est pour toutes ces raisons que je crie liberté. À tous ceux pour qui elle est chaque jour bafouée. À tous ceux qui ont cru aux valeurs qu'ils défendaient et l'ont payé. La liberté ne peut s'écrire sans les combats que vous avez menés. Liberté.
C'était Charlotte pour terminer cette émission pour la dignité, cette émission chaque mensuelle, donc chaque normalement premier lundi du mois à 9h sur Fréquence Mistral 99.3. Bonne journée à tous, restez à l'écoute de Fréquence Mistral.